l'humanité, amour de l'amour. Cours numéro 12, enregistré le 29 février 1960.
Abordons aujourd'hui une autre forme d'immédiat, c'est celle dont nous nous séparons nous-mêmes par notre faute et en multipliant les intermédiaires, non point celle dont nous sommes irrémédiablement séparés, ou presque irrémédiablement, et auquel nous avons accès uniquement par la médiation, mais un immédiat dont nous sommes séparés par des intermédiaires qui, eux, ne servent à rien. Si on l'appelle le média, comme le fait James Mark Baldwin, comme la référence d'un contenu à quelque chose qui n'est pas lui, c'est-à-dire qui fait appel à une autre expérience ou à une idée qui lui fournit un contrôle et dont le coefficient est simplement indiqué, sans rien de donné ou de présent, nous dirons que, inversement, l'immédiat, dans le langage de Baldwin, n'est quelque chose qui n'est pas suggéré par quelque chose d'autre, qui équivaut par lui-même. Eh bien, ceci peut s'appliquer aussi bien à l'immédiat que nous avons précédemment étudié et à celui que nous entreprenons d'étudier aujourd'hui. Et par conséquent aussi, vaut inversement pour les deux genres de... pour la première, la médiation, d'une part, et pour ce que nous allons dire maintenant sur les intermédiaires. Nous l'avions dit, c'est peut-être pas ainsi que je l'avais dit, mais je puis le rassembler sous cette forme aujourd'hui pour être plus clair, avant de passer à ce nouvel immédiat, que l'homme est séparé du donné immédiat, ou bien par un troisième terme, tout seul, par un moyen terme, qui est un médiateur, par exemple dans le syllogisme, qui est comme le terrain neutre, le lieu de rencontre, qui s'entremet entre deux termes dont on ne verrait pas le rapport intuitivement et immédiatement, et qui leur sert de rendez-vous. Ou bien encore, l'homme est séparé de l'immédiat par la chaîne, le pluriel des intermédiaires dans la dialectique, qui elle n'est pas un raisonnement rigoureux. Qu'il s'agisse donc ou bien de moyen terme dans un syllogisme, raisonnement apodictique et rigoureux, soit des intermédiaires d'une dialectique, raisonnement approximatif, enchaînement anagogique, dans les deux cas, que ce soit les intermédiaires dialectiques ou le moyen terme du syllogisme, c'est quelque chose qui est médiateur, c'est-à-dire qui nous rapproche, qui est dans l'entre-deux, qui est, ou bien un moyen terme qui est les deux, n'est-ce pas, qui est dans l'entre-deux qui est les deux, ou bien intermédiaire qui est l'étape sur un chemin, le moment dans un progrès de pensée, le déhalte sur une voie, ou comme dit Platon, des épanabasmoi, ou Plotin après lui, c'est-à-dire des degrés sur une échelle, des relais pour aller ailleurs, mais encore une fois, qu'il s'agisse du moyen terme, qui est le terrain commun dans la dialectique à trois temps, qu'on appelle, et rigoureuse, qu'on appelle le syllogisme, ou qu'il s'agisse des étapes sur une route dans la dialectique, dans les deux cas, c'est un chemin pour aller vers, n'est-ce pas, pour se rapprocher de quelque chose. Et par conséquent, ce sont vraiment des intermédiaires qui ont un caractère de médiation. Et ce n'est pas pour son plaisir, ni de gaieté de cœur, que l'homme recourt à ses bons offices du médiateur, à ses bons offices du tertium quid, ou bien à la chaîne des intermédiaires. Il y recourt parce qu'il est séparé du donné immédiat, parce que il y recourt parce que un a priori irrémédiable ou presque irrémédiable le sépare de cette donnée et qu'il ne peut saisir que d'une manière médiate. Donc, l'homme, dans ce cas que nous avons étudié jusqu'à présent, ne sait pas se séparer secondairement du donné, n'est-ce pas ? Il ne s'en est pas séparé secondairement l'ayant auparavant connu, comme dans le cas que maintenant nous allons étudier, mais il fait de son mieux pour y accéder alors qu'il en est séparé a priori. Donc, la séparation de l'homme et du donné est une séparation a priori antécédente, à laquelle il remédie autant qu'il le peut par la médiation. Et c'est pourquoi nous disions que par la médiation, quelle qu'elle soit, eh bien, l'homme fait au plus court, au mieux, au mieux et au plus proche, relativement, dès l'instant qu'il n'a pas accès immédiatement, c'est encore ce qu'on peut faire de mieux. Donc, faute d'établir directement un rapport entre deux termes, dont on ne voit pas le rapport, on essayera d'établir le rapport de chacun de ces termes avec un autre, et ensuite de constater le rapport de ces deux rapports. Faute de saisir immédiatement la ressemblance de deux êtres, on en trouvera un troisième auquel ils ressemblent tous les deux, parce qu'on n'a pas saisi intuitivement leur identité, et ainsi de suite. Cela s'appelle raisonner. Et naturellement, dès que l'homme a trouvé le contact avec les données immédiates, il rejette, pour un instant, puisque aussi bien nous savons que cela ne dure qu'un instant, il rejette le médium. Il le rejette un instant lorsque le contact est établi. Maintenant, nous abordons un autre genre d'immédiat, et vous allez voir que ça n'est pas couper les cheveux en quatre que de le distinguer du précédent, car en même temps, nous allons entrer dans un autre domaine qui a un caractère souvent esthétique ou sentimental, en tout cas plus esthétique. Il s'agit d'un immédiat primitif avec lequel nous avions un rapport que nous avons perdu parce que nous sommes trop civilisés, trop conscients, par exemple. Et par conséquent, les intermédiaires ici ne nous conduisent plus vers un donné dont nous serions séparés, mais au contraire, nous sépare d'un donné avec lequel nous aurions sans lui un rapport immédiat. Donc, cette fois, l'esprit est séparé après coup du donné, il est séparé après coup, et il en est séparé par quoi ? Il en est séparé surtout par une image de lui-même, par l'image de lui-même dans un miroir, par l'effet de la conscience. Mais il en est séparé aussi par la science de la sensation, par la conscience de la sensation. Donc, dans ce cas, l'écran, c'est la présence même du sujet. Vous voyez que il faudrait, pour être plus clair encore, et je crois que sous cette dernière forme, le contraste entre les deux chapitres sera parfaitement clair, s'il ne l'était jusqu'à présent, ce serait toute la distance qu'il y a entre ce qu'on peut appeler, pour spécialiser les deux termes, puisque nous les avons tous les deux, et nous pouvons les employer tous les deux, c'est toute la différence qu'il y a entre les moyens termes et les intermédiaires. D'ailleurs, il faudrait distinguer aussi intermédiaires et intermédiaires, car pour la dialectique, on peut aussi dire des intermédiaires. Mais ce sont des intermédiaires qui vont vers, qui nous conduisent à quelque chose, comme les épanabasmoï, n'est-ce pas, les épibolaï de Platon et de Plotin. Donc, distinguons des intermédiaires de la dialectique et des moyens termes du syllogisme qui vont vers, distinguons-en les intermédiaires qui retardent et éloignent, séparent ce sans quoi j'aurai un rapport immédiat et dont je me passerai bien finalement. Si bien que les moyens termes et les intermédiaires dialectiques sont un lieu de passage, au lieu que les intermédiaires dont maintenant nous parlons sont un lieu de séjour, n'est-ce pas ? Alors que les intermédiaires ne sont pas faits pour qu'on y séjourne, ils sont faits pour aller ailleurs, comme les étapes ou les haltes sur un chemin, qui sont des étapes comme les chalets où on s'arrête pour faire des relais dans l'ascension quand l'ascension est trop longue, n'est-ce pas ? Ça n'est pas fait pour qu'on s'y repose. C'est fait pour qu'on s'y repose, mais c'est pas fait pour qu'on y séjourne définitivement, mais pour aller ailleurs. Donc, les intermédiaires dont maintenant il s'agit ne sont plus des médiateurs au sens dynamique et actif du mot, des médiateurs qui conduisent quelque part, mais ce sont plutôt comme des parasites. C'est pas comme des parasites postés sur les chemins et qui prélèvent la dîme. C'est pas comme si vous voulez des parasites postés sur les chemins postés entre le producteur et le consommateur, sur les chemins de la circulation des richesses et de la distribution des richesses, sur les routes où les richesses circulent et qui prélèvent leur dîme pour rien, qui retardent le moment où le morceau de pain arrivera jusqu'à ma bouche. Donc ce ne sont pas des apanabasmoï, ce ne sont pas des degrés dans une dialectique, ces messieurs postés au coin des routes, n'est-ce pas, et qui retardent le moment où le pain arrive sur ma table. Ce sont des messieurs qui prélèvent leur dîme, tout simplement. On s'en passerait bien. Donc, ici, comme vous le voyez, les intermédiaires ne servent qu'à retarder, qu'à allonger, qu'à ralentir. Et si vous voulez, pour laisser de côté les parasites, les intermédiaires de la circulation des richesses, et pour nous replonger dans l'Antiquité, où personne ne dira que j'ai des arrière-pensées, si j'en parle, alors disons que ce que nous parlons maintenant ressemble moins aux épanabasmoï de la dialectique platonicienne, du sixième livre de la République, que plutôt aux sirènes, à Circé, à Calypso, qui sont postées sur la route d'Ulysse. Ces dames ne sont pas là qui chantent des mélodies, des chansons, des sirènes, n'est-ce pas, ou les enchanteresses. Elles ne sont pas là pour permettre à Ulysse de rentrer à Ithaque, mais au contraire, elles sont là pour l'empêcher de revoir sa femme, son épouse, qui tisse une tapisserie pendant ce temps-là. Donc, ça retarde son retour. Ce sont des impedimenta, des causes de retard sur la route, et dont Ulysse se passerait bien, n'est-ce pas? C'est donc que ces sirènes, toutes ces enchanteresses, n'ont pas de caractère, dans le langage dialectique, anagogique, n'est-ce pas? Agogique. Elles ne sont pas faites pour nous conduire par la main. Elles ne sont pas des médiatrices. Et bien entendu, la posture usuelle, qui fait que souvent on a du mal à distinguer l'un de l'autre, la posture usuelle et l'équivoque usuel, c'est que l'intermédiaire se fait passer pour un médiateur, n'est-ce pas, et que bien pratiquement c'est difficile de distinguer entre l'un et l'autre. Quand on met la main au collet d'un intermédiaire qui n'est qu'un parasite, il dit qu'il est un médiateur, n'est-ce pas, et si on demandait à Circé et à Calypso, elles diraient probablement quelque chose du même genre. Donc il y a des cas dans lesquels on sait qu'il s'agit d'un imposteur, et des cas dans lesquels il y a un doute, et dans lequel l'intermédiaire peut alléguer une fonction, pour employer un autre mot barbare, mais pourtant assez clair, odégétikos, qui mène quelque part par un itinéraire. Il peut usurper ce cas. Donc, il y a souvent difficulté de distinguer l'intermédiaire statique, qui se trouve simplement là, entre les deux extrêmes, et sans lequel les termes en question communiqueraient directement, et par conséquent, qui n'est qu'un obstacle, sans être un organe, qui n'est pas obstacle-organe dans notre langage, mais obstacle sans être organe, et qui empêche simplement le contact immédiat, d'une part. Et d'autre part, le terme qui a une fonction agogique, une fonction médiatrice, mais d'un mot, une fonction qui est fonctionnelle, un intermédiaire fonctionnel, dynamique, tel que l'est, par exemple, la fonction du démon Eros. C'est la fonction que Platon donne à Amour, Eros, et c'est la raison pour laquelle Platon l'appelle Daimonios, dit qu'il est démonique, qu'il est de la nature des démons, intermédiaire entre les dieux et les hommes, non pas pour séjourner comme ça entre les uns et les autres, pour intercepter les messages, par exemple, et les fourrer dans sa poche, c'est-à-dire pour retarder, mais au contraire, pour relationner. Le démon Eros est nécessaire pour relationner le divin et l'humain qui, sans lui, n'aurait pas de rapport. Il s'agit de mettre en rapport ce qui, sans un intermédiaire, n'aurait point de rapport. Donc, il est le courrier, et il fait le courrier, n'est-ce pas, comme Hermès fait le courrier. Et lui, au contraire, il met en rapport des termes qui, sans lui, resteraient irrémédiablement coupés les uns des autres, comme le sont le divin et l'humain. Et il s'entremet positivement, il rend service, n'est-ce pas, Eros rend service au lieu d'intercepter. Il conduit, il guide, persuade, réconcilie, et Platon dit, s'il fallait parler ici non point de l'immédiat mais d'Eros, il faudrait montrer comment Eros sert à porter aux dieux les prières des hommes, n'est-ce pas? Il apporte les prières et les doléances des hommes, et il rapporte aux hommes les bienfaits des dieux, donc il permet les contacts, la négociation et la paix. Et si j'ose ici comparer ce texte profane à l'écriture, mais vous ne m'en voudrez pas, puisque tout ce que je fais, c'est pour faire comprendre, nous dirions que ça peut nous rappeler également les paroles du Christ dans l'évangile de Saint Jean, 14:6, et paroles célèbres, et bien plus connues encore de vous que de moi, et où Christ dit « Ego eimi et odos », je suis la voie. La voie, le chemin, n'est-ce pas? Nul ne va au Père si ce n'est par mon intermédiaire, puisque je suis la voie. Voyez également lettre aux Hébreux, 10:20, lettre aux Romains, 5:1, et tous ces textes sont fort connus, l'expression notamment qui est dans la lettre aux Romains, prosagoge, n'est-ce pas? Dia, avec la préposition dia, qui implique la médiation à travers, et prosagoge qui vous rappellera l'anagoge, dont j'ai souvent parlé, l'anagoge platonicienne. Et encore, ce texte est aussi caractéristique, sinon davantage, que le texte célèbre que je viens de rappeler, Ego eimi et odos, en 10:9, l'évangile de Saint Jean dit, fait dire au Christ, Ego eimi et tura. Je suis la porte. Je suis la porte d'Iemu et Antiseiselte. Si par moi quelqu'un passe, comme on passe par une porte, sautez cet aille, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Je suis la porte qui ouvre, la porte qui permet de passer. Non pas une porte fictive et qui ne sert à rien ou à trompe-l'œil, mais un principe qui mobilise, qui dépanne. Et je m'excuse encore une fois de ce rapprochement en approfondissant mon sacrilège. Il ressemble une fois de plus au principe mobilisateur que Platon appelle Eros. Donc, il semble que maintenant, nous ayons affaire, lorsque nous allons parler des intermédiaires, non plus à ce principe christologique ou érotique de Platon, mais à un impédimentum purement négatif, à un impédiment qui est, comme je le disais, purement obstacle et qui s'interpose inutilement, qui rend simplement les rapports indirects au lieu de médiatiser et activement, qui impose au courant qu'on appelle le rapport, qui lui impose un détour, une station, un crochet stérile, une déperdition de temps qui oblige l'influx, qui brise l'influx, si vous voulez, qui brise le rapport. Eh bien, je disais que cet impédimentum, alors qui n'est que cette fois négatif et qui s'oppose à un rapport immédiat, c'est l'écran que fait pour le rapport, d'abord, en premier lieu, la présence même du sujet. C'est le premier point qu'il nous faut étudier. La présence même du sujet, présence encombrante, rendue encore plus volumineuse et encore plus mousseuse par la conscience, et notamment par cette image dans un miroir qu'on appelle la conscience de soi. Et secondairement, comme je le disais, par la conscience de la sensation. Mais d'abord, par la conscience de soi-même, la self-conscience, conscience de soi. On peut s'étonner de cela, mais on s'étonnerait de cela que si on n'avait pas suivi ce cours. Donc vous ne pouvez plus vous étonner de rien, puisque j'ai averti dans les premières séances que la perte du contact avec l'immédiat, en un sens, était une des marques de notre civilisation, de notre supériorité, le pouvoir de se déprendre, de s'éloigner, ce que nous appelions le distancement, et donc la médiation, était en un sens non seulement la rançon d'une supériorité, mais cette supériorité elle-même. Donc, ce n'est point nous étonner ni nous embarrasser que de nous dire maintenant que cet acte de la conscience, dont nous allons montrer maintenant pourtant qu'il est encombrant, qu'il fait écran, et pourtant correspond à un acte de ma liberté, à l'acte impalpable de la liberté, à l'acte spirituel par excellence, qui est l'acte du dégagement ou du désengagement, par lequel l'homme se dégage ou se désengage du donné, et qui permet donc à l'homme de l'immédiat, au sens alors réflexif de ce mot, de se cesser d'adhérer, d'avoir le monde physique au niveau même de son corps, au niveau même de son existence. Qui permet donc à l'homme méduse, dont parle Platon et dont nous parlons sans cesse avec lui, à l'homme qui se chauffe sur le sable comme une étoile de mer, à l'homme réduit à l'état de sac gastrique, n'est-ce pas, à une existence gastrique, à un tube digestif, comme nous disions encore, n'est-ce pas, qui permet à cet homme-là de ne plus coïncider avec son être gastrique, végétatif en général, avec son essai et son être végétatif et substantiel, à ne plus coïncider avec cet être primaire, et donc à se déprenant de l'opération naïve que nous pourrions appeler l'opération primaire, l'opération extatique, par exemple, qui n'est même pas une opération, dans la sensation par laquelle l'homme coïncide avec cette sensation, coïncide avec le plaisir qu'il éprouve à digérer, à se chauffer au soleil, etc. Et par conséquent, en cela, à s'éloigner du monde des choses, n'est-ce pas, des choses elles-mêmes, à se tenir à bonne distance. Eh bien, tout cela, c'est la marque même de l'humain, et on ne voit pas pourquoi cet acte libérateur devrait nous faire perdre le contact avec la vérité, avec le donné. Et en effet, c'est le problème que nous posions au début de ce cours. Comme vous le savez d'ailleurs, Platon, puisqu'il parle de l'homme méduse, des mollusques, enfin de l'homme mollusque, examine cela dans le temps, n'est-ce pas, par rapport au temps, qui est en effet l'instrument de libération de l'homme. l'homme et montre comment la supériorité de l'homme, c'est de prendre de la distance par rapport au passé, en se décollant du passé par le souvenir et en se décollant de l'avenir par l'anticipation. Parle donc la phronesis, la prudence ici, a en quelque sorte deux armes, l'une rétrospective, l'autre prospective. Elle regarde en arrière et en avant, comme le Janus a deux faces, en arrière par le souvenir et la comparaison, en avant par la prévision, l'anticipation, l'espérance et le calcul phronétique en général. Donc, c'est dans les deux cas, le principe du temps, c'est dans le temps que l'homme accède de l'être à la conscience, de l'être à la conscience d'être, c'est-à-dire s'évade du sommeil compact, le sommeil de l'homme en soi, n'est-ce pas, qui est de la somnolence inconsciente, et accède à une existence dégagée, allégée, et même si vous voulez un peu raréfié en tant qu'existence, mais aéré par la conscience. Un être qui a de la conscience est un être qui existe un petit peu moins, parce qu'il est aéré par les vides de la conscience qui le rendent plus léger, plus poreux, si on peut dire, n'est-ce pas, et donc, en ce sens, plutôt moins physique, moins existant, moins compact, moins massif. Eh bien, cet acte est donc, affirmativement, une manifestation de supériorité, d'une transcendance qui est comme la supériorité que nous confère la conscience. Et en cela, Socrate, Pascal et Descartes sont bien d'accord, n'est-ce pas ? Relisez le célèbre fragment du roseau pensant, n'est-ce pas, le fragment un peu cartésien du roseau pensant chez Pascal, dans lequel on voit que l'un est le plus fort, qui est l'univers, mais ne le sait point, et l'autre est le plus faible, mais le sait, et qu'il vaut mieux finalement être le plus faible, être le vaincu qui se sait vaincu, ça veut dire, enfin, quoi qu'il ne le dise pas en ces termes, qu'il vaut mieux être un vaincu qui se sait vaincu, que d'être un vainqueur qui n'a même pas conscience de sa victoire. Car si l'un est en effet vainqueur, il ne le sait point, et par conséquent, il lui manque la supériorité infinie, la plus grande de toutes les victoires, celle sans laquelle la victoire physique est inopérante, inefficace, ou pour mieux dire, inexistante, et qui, au contraire, est capable de faire, de transformer la défaite en victoire, comme il est arrivé aux Grecs vaincu par Rome, et conquis par Rome. Donc, entre l'un et l'autre, s'il fallait choisir dans l'alternative, c'est-à-dire la supériorité dans la conscience et la conscience dans l'infériorité, eh bien, il vaudrait évidemment d'abord mieux choisir la conscience. Naturellement, tout cela est très socratique, si vous voulez, car, en somme, la supériorité du roseau pensant sur l'univers des forces physiques, c'est la même que la supériorité, un peu la même que la supériorité de Socrate sur les rhéteurs, les sophistes et autres charlatans. Ni les uns ni les autres ne savent rien. Socrate est aussi ignorant que ses faiseurs d'embarras, mais la différence qu'il y a entre lui et les faiseurs d'embarras, c'est que lui sait qu'il est ignorant. Vous me répondrez, ça ne le rend pas plus savant. Et en effet, le roseau pensant a beau savoir qu'il est un roseau, ça ne le rend pas plus fort. Si vous voulez, encore, puisque j'ai si souvent dit ça l'année dernière, que j'hésite à le répéter cette année, que l'homme se sait mortel, et puis il continue à mourir, n'est-ce pas ? Il a beau savoir la mort, avoir conscience de cette mort, c'est-à-dire en un sens l'englober, la surplomber, la survoler, il ne reste pas moins en dedans de la mort par le fait qu'il meurt, n'est-ce pas ? Le grand philosophe, le plus grand philosophe du monde, qui a passé toute sa vie à penser la mort, à la transcender par conséquent, puisqu'il a la conscience, eh bien il fera comme tout le monde, le moment venu, il crèvera, n'est-ce pas ? Donc, lui qui est en dehors de la mort, il est aussi misérablement en dedans, comme le roseau pensant a beau penser la nature, eh bien la nature l'écrase quand même. Et de la même manière, Socrate se sait ignorant, c'est une affaire entendue, mais en un sens, ça ne le rend pas, en un sens, mais en un sens seulement, comme vous allez voir, ça ne le rend pas plus savant. Donc, il y a malgré tout, dans cette supériorité physiquement impuissante et malgré laquelle l'homme cède à la force, à la supériorité physique, etc., il y a quand même une supériorité incalculable, incommensurable à quoi que ce soit d'autre, et qui est celle même de la conscience. Eh bien, si ça n'était que cela, nous ne comprendrions pas puisque nous reparlons maintenant de la conscience, comme la conscience de soi notamment, comme ce qui nous fait perdre le contact, ce qui nous empêche de connaître l'immédiat, on ne s'expliquerait pas donc qu'elle puisse ainsi nous faire perdre ce contact. C'est qu'il y a en effet en elle autre chose, qui est la rançon même de cette supériorité, et qui nous fera mieux comprendre maintenant ce que nous perdons à cause d'elle. Elle n'est pas seulement, en effet, ce principe d'une supériorité infinie, elle est encore un principe de subtilisation à l'infini, de subtilisation interne, et donc aussi une menace de décomposition morbide, de décomposition intérieure, de l'être, par lequel nous perdons le contact avec le donné. Donc, c'est elle aussi une arme à double tranchant, car tout est un peu ambivalent dans cette histoire-là, n'est-ce pas, et pas seulement le temps dont tout à l'heure nous parlions, mais aussi la fonction de la conscience, qui est d'une part, donc, le principe par lequel nous englobons le donné au lieu d'être englobé par lui, le survolons au lieu par lequel nous sommes dehors au lieu d'être dedans, sommes à la fois dedans et dehors, n'est-ce pas, étant dedans, sommes quand même dehors, et étant dehors, restons, hélas, dedans, mais quand même, sommes relativement dehors, mais dans un autre sens, elle est le principe de la décomposition intérieure. Et on peut aussi l'envisager ainsi. Lorsque Spinoza parle de l'idée de l'âme, par exemple, ce qu'il appelle « idea idee », idea idee, notamment dans la deuxième partie de l'éthique, 21, Scoli de la proposition 21, il s'exprime ainsi, en parlant de cette idée de l'idée, qu'est l'idée de l'âme. Simulac quis aliquid sit, en même temps que quelqu'un sait quelque chose, et eo ipso sit se it sire. Par le fait même, il sait qu'il sait. Et simul sit se sire quod sit, et en même temps il sait qu'il sait qu'il sait, et sic in infinitum, et ainsi à l'infini. Dans ce texte, il y a, comme vous le voyez, une conscience qui, cette fois, se creuse à l'infini. Et vous remarquerez d'abord le simul, n'est-ce pas ? En même temps qu'elle sait, elle sait qu'elle sait. La conscience ne veut pas savoir, sans du même coup savoir qu'elle sait. Ce n'est donc pas cette conscience de soi, c'est ce savoir du savoir qu'on appelle la conscience de soi, n'est donc pas un luxe supplémentaire, n'est-ce pas, mais une chose qui est en plus et gratuitement, mais c'est une subtilisation qui est immédiatement inhérente au savoir, qui est comprise dans le savoir lui-même. Ce n'est pas en plus du savoir, mais c'est une fatalité du savoir, et qui fait que le savoir, si on peut ainsi s'exprimer, en laissant évidemment de côté Spinoza, qui est ici plutôt un thème pour nos réflexions et un prétexte, c'est ce qui rend le savoir que nous avons de quelque chose meuble et fuyant. Le savoir que l'homme a d'une chose est toujours un savoir où on enfonce, n'est-ce pas ? Un savoir meuble et fuyant, car parce que l'homme est un homme, il lui est impossible de savoir sans savoir ce savoir. Donc, le savoir se creuse instantanément. Par le fait même que le savoir est dirigé sur la chose, le savoir se creuse à l'intérieur. Et il se creuse dans le savoir primaire, qui est le savoir de la chose, le savoir de la chose sue, se creuse un savoir secondaire et un savoir tertiaire, et ainsi à l'infini. Et non seulement il faut faire attention au simul chez Spinoza, qui est très important, et car tout cela étant une fois, est instantané, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une succession de fatalités qui se grefferait sur une première fatalité, mais c'est instantané. Et en deuxième lieu, vous remarquerez les mots « in infinitum », bien entendu, et ainsi à l'infini. Car à cette subdivision, à ce dédoublement de la conscience, il n'est pas de limite. Ce processus instantané est un processus qui ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas et qui est en cela à l'image de la liberté, dont il est comme le verso, comme le verso, en ce sens que la subtilisation de conscience est à la liberté comme le verso au recto, n'est-ce pas, comme la rançon à la supériorité elle-même. La liberté est infinie, puisque l'homme peut se déprendre à l'infini, et s'évader à l'infini, rétablir à l'infini la distance, mais la rançon de cette infinité libératrice, libératoire, c'est qu'il se creuse également et se subdivise à l'infini. l'infini. Tout cela, encore une fois, en simultanéité. Nous l'exprimons en plusieurs phrases, mais tout cela n'arrive qu'une fois. Et en même temps, vous remarquerez, c'est du reste que ce que remarque Braunschweig dans son livre sur Spinoza, à la page 100, où il s'arrête à cette phrase, hein, il consacre quelques lignes pénétrantes à cette phrase de Spinoza. Vous remarquerez que c'est une liberté qui est sans ouverture sur la chose, puisque la creuser est une creuser à l'intérieur. Le savoir se creuse d'un savoir de savoir et d'un savoir de ce savoir, et ainsi à l'infini, en m'éloignant des choses, mais non pas en m'ouvrant sur elles. Je n'ai donc pas un infini ouvert sur le monde, mais c'est un infini qui nous éloigne plutôt du monde. C'est un infini qui nous éloigne des objets et qui est ouvert plutôt sur un monde intérieur. Simulac quis aliquid sit. En même temps que quelqu'un sait quelque chose. Aliquid, quelque chose qui est, comme dirait un phénoménologue d'aujourd'hui, ce quelque chose qui est la visée attentionnelle du savoir. Eh bien, ce quelque chose, il finit par disparaître. On finit par l'oublier. Il devient tout petit, minuscule, lointain. Dans cette creusée à l'intérieur, lui, le premier prétexte, la première raison, la première visée de ce savoir, il devient minuscule et lointain avant d'être finalement voué au néant de l'oubli, comme un simple prétexte. Donc d'une part, la liquide qui est, comme l'hétéronti dont parle Platon, le quelque chose du savoir devenu minuscule à l'horizon, et deuxièmement, l'impossibilité d'une stabilisation, n'est-ce pas ? Nous cherchons une stabilisation dans ce processus, je m'en tiendrai là, n'est-ce pas ? Par exemple, je m'en tiendrai à la conscience avec la puissance 2, ça suffit largement. Bon, puisque je ne peux pas simplement savoir les choses, et qu'il faut se résigner à être un homme, et un homme libre, avec les fatalités que cela comporte, eh bien, je me contenterai de la conscience, de la conscience de la conscience. Ça suffit comme subtilité. Mais non, un homme ne peut pas s'arrêter là, sans ça il n'est pas un homme. L'hominité de l'homme, l'humanité de l'homme, le fait qu'un homme est un homme, consiste justement dans le pouvoir infini de dépasser, même cet exposant, de l'impossibilité de se borner, même à une conscience de conscience, de décréter que cela suffit, même une surconscience très compliquée. Et ainsi, il n'est pas de limite à la raréfaction, à l'amenuisement, à l'exténuation de mon existence et de ma vue de la chose et de mon contact avec la chose corrélatif à cette creusée. L'esprit dont parle Spinoza, en se prenant pour objet, se pense elle-même sans pouvoir jamais sortir de la limite même de la pensée. Eh bien, en cela, vous voyez, il y a donc une science de la science qui n'est pas simplement science de la naissance et qui peut être un savoir positif, comme chez Socrate, envisagé uniquement comme libératrice et finalement comme le principe d'une science nouvelle, qui est la psychologie, par exemple, la connaissance de l'homme, dont on dit par laquelle on dit que Socrate a remplacé celle des météores, mais il s'agit d'une, ce que j'appellerais, n'a vilain un mot, mais enfin qui annonce que nous en parlerons tout à l'heure, une rescience, une science repliée sur elle-même, une science qui se bord la queue, qui revient à elle-même, qui tourne en rond, c'est pas la rescience et qui n'arrive pas à sortir de la limite de l'âme. On sait, nous l'avons ici même répété, en parlant de problèmes d'ailleurs voisins, que Platon, très grec en cela, et tout socratique qu'il fût, et qui restait très grec, était quand même très attaché à l'idée de l'hétéronti, la liquide dont nous parlions maintenant. Je vous ai rappelé les textes du Charmide, qui en somme montrent l'hésitation de Socrate à renoncer à ce qu'un moderne appellerait l'intentionnalité du savoir, n'est-ce pas ? Et combien l'idée d'une science de la science, épistémé et épistémès, et par conséquent d'une science de soi-même, épistémé et hôtesse, lui paraissent baroques, saugrenues, contradictoires, contraires à toute intention du savoir, qui est de savoir quelque chose, et par conséquent de savoir quelque chose d'autre, quelque chose qui ne soit pas ce que le sujet même qui sait, un alloti, un hétéronti. C'est l'idée même du Charmide. Platon n'admet donc pas cette dégénérescence, ce que probablement, s'il avait réfléchi davantage, peut-être, sur ce point, à une époque pourtant socratique, puisque le Charmide remonte tout à fait à l'époque où Platon était encore très socratique et très voisin de l'idée socratique de la science de l'homme, et pourtant, dès cette époque, comme vous le voyez, il aurait probablement considéré comme un fait de décadence ou de dégénérescence cet abus de l'auto-analyse. Mais remarquez que chez Platon, il n'y a pas encore, comme il y aura chez Spinoza, le principe infini, n'est-ce pas, le principe de ce que nous appelions le sic in infinitum, et ainsi à l'infini. Le Charmide ne dit pas et ainsi à l'infini. C'est Spinoza qui le dira. Spinoza, le moderne, dira qu'il n'est pas de limite à l'idée, au dédoublement de l'idée d'idée. Socrate propose le monstre, le paradoxe d'une épistémèse, mais sans aller au-delà, sans couper davantage ce cheveu à son tour. Donc, il y a en plus, et pour nous autres, n'est-ce pas, ce que Platon n'avait pas regardé en face, mais qui existe pour nous comme un danger, inhérent à l'infinité même de la libération, comme tout à l'heure je l'ai dit, et il y a un principe d'infinité, c'est-à-dire un principe ici de prolifération illimitée, de subdivision illimitée, de pullulement illimité, et qu'on comparerait volontiers à la subdivision des cellules en folie dans un tissu cancéreux, n'est-ce pas, qui se multiplie jusqu'à ce que le sujet en meure, n'est-ce pas. Et on dirait volontiers, pour faire comprendre les choses, pour les comparer à quelque chose d'intelligible, que cette subdivision un peu mortelle de conscience, qui finit par nous étouffer, ressemble à cette prolifération et à cette segmentation des cellules en folie, et finalement à la fabrication, comme dans les tissus cancéreux, d'un tissu qui envahit tout, qui finit par nous étouffer, et qui fait de l'homme une curiosité tératologique. Un homme pourri d'auto-analyse, qui a une énorme tête, si on peut dire, figurée, un peu hydrocéphale ou figurée, une énorme tête, et qui n'a oublié qu'une seule chose, ce sont les objets primaires, c'est la donnée immédiate de son savoir, n'est-ce pas, et qui ne trouve plus le frein qui arrêterait cette subdivision infinie. Voilà donc l'asphyxie. Le principe de l'asphyxie par ce que nous appellerons, d'un terme employé par ailleurs, par les caractérologues, que j'emploie dans un autre sens, mais qui est commode et intelligible pour tout le monde, la secondarité. L'homme est asphyxié donc par cette secondarité, et c'est-à-dire il est encombré de lui-même, encombré par les créatures de cette introspection aiguë. Donc, cet être secondaire, qu'il est en réalité, dans la moyenne des jours, dans la vie quotidienne, cet être secondaire et non pas primaire, et qui est en retrait par rapport aux choses que nous disons secondaires, parce qu'il est en retrait sur les choses, cesse de coller ou d'adhérer à ces choses. Et il l'est par tous ces actes, par toutes ces opérations qui, en français, commencent par le préfixe « re », ou par le préverbe « re ». Il faudrait, en réalité, que tous les verbes qui désignent des opérations de l'esprit devraient en réalité commencer par re en français, n'est-ce pas? Et on fait cadeau à l'homme d'oublier par moment ce re en disant par exemple que quelqu'un commence alors qu'on sait très bien qu'il ne fait que recommencer, et qu'il crée alors qu'il ne fait que recréer, que continuer et que imiter. D'autres philosophes ont dit cela bien mieux que nous ne pouvons le dire. Mais ici, la présence du préverbe re impliquerait, si vous voulez, que toutes ces opérations qui désignent des attitudes, des actes de l'esprit, sont affectées de ce que nous appelons un exposant, qui est tout simplement l'exposant de conscience. Tout ce que nous disons, faisons, sentons, est affecté de cet exposant de secondarité, et qui fait que l'acte dont nous sommes l'auteur n'est plus un acte primaire, dirigé sur la chose elle-même, res ipsa, et sur la chose directement, mais un acte second, dédoublé de la chose, et un acte humain, en cela d'ailleurs. L'acte est humain dans la mesure où il est secondaire et dédoublé de la chose, et où son auteur, est une conscience qui se soustrait à la primarité du rapport originel, du rapport direct, et qui par conséquent, et c'est là la rançon de cette humanité, perd le contact avec le donné immédiat. Perd le rapport avec ce donné immédiat. Voilà donc une science qui est naturellement rescience, et qui exige tant de précautions pour que l'homme retrouve ce qu'il y a de primarité dans sa science. Il lui faut beaucoup de lucidité, d'honnêteté intellectuelle, de précautions pour en distinguer la rescience, comme pour distinguer de sa connaissance tout ce qui est reconnaissance. Reconnaissance, c'est-à-dire, dans notre langage, connaissance avec exposant. Connaissance sur de la connaissance. Le savoir de l'homme n'est plus le savoir de la chose, mais du savoir sur du savoir, et du savoir sur le savoir de ce savoir, du savoir à la puissance 2 ou à la puissance 3, du savoir avec exposant. Donc, la reconnaissance, ici, n'est pas seulement ce qu'on appelle, et c'est aussi en cela, ce qu'on appelle usuellement la reconnaissance, mais en plus, c'est la deuxième connaissance. La connaissance secondaire, qui est connaissance de connaissance. La connaissance en surimpression sur une connaissance. La connaissance imprimée sur une autre connaissance est superposée à elle, et comme son image. D'ailleurs, il faudrait, peut-être aurons-nous le temps de le faire, la prochaine fois, montrer que l'intérêt pour les images, pour la psychologie et la philosophie des images, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, vient un peu de cet abus, et parallèlement, la critique sévère à laquelle Bergson, le réaliste, le prophète de l'immédiat, a soumis la psychologie des images, vient d'un désir, justement, d'écarter cette reconnaissance en surimpression sur la connaissance. Et enfin, après la rescience et la reconnaissance, le ressentiment. Cette fois, je suis obligé de m'excuser, parce que le mot ressentiment en français a aussi un autre sens, enfin en tout cas un sens plus spécial, mais nous appellerons ici ressentiment, n'est-ce pas, du sentiment sur du sentiment. Et en général, les sentiments que les hommes éprouvent, la plupart du temps, vous le savez bien, ne sont point des sentiments sur les choses elles-mêmes ou sur les êtres eux-mêmes, mais ce sont des sentiments sur les sentiments que ces choses, que ces êtres leur inspirent. C'est du sentiment à la puissance d'eux, c'est du sentiment avec exposant, donc du sentiment secondaire dans lequel... Du sentiment à propos du sentiment, et dans lequel l'immédiat est bien loin, bien petit, bien minuscule, bien oublié, n'est plus qu'un misérable prétexte. En un mot, il s'agit, chez l'homme secondaire, l'homme libre, mais trop conscient, d'un commerce avec des sous-produits. Avec des sous-produits de l'immédiat. Nous n'avons de rapport qu'avec des sous-produits, des sous-produits dérivés de la chose, secondaires et même tertiaires, et avec des dérivés de ces dérivés. Eh bien, beaucoup de gens vous diront que c'est là l'indice même de la civilisation. Un homme est extrêmement civilisé dans la mesure où il n'a affaire qu'à ses sous-produits, qui naturellement l'éloignent du donné. Et que ce soit des affections, parce qu'il en a assez, des choses elles-mêmes, blasement, lassitude, et excessive virtuosité, et il faudrait étudier minutieusement toutes ces choses, et notamment le blasement qu'on n'a pas assez étudié. L'homme oublie, commence par oublier la chose, qui est pourtant la raison d'être, et la visée intentionnelle de son acte primaire. D'abord, il l'oublie, et ensuite, selon les processus que les psychologues et les sociologues ont étudiés jadis, c'est analyse qui a été faite depuis longtemps par un transfert de motifs, et l'homme prend goût aux moyens, qui sont toujours secondaires, et bien de la même manière, et qu'il oublie la fin au profit des moyens, et au profit des moyens qui sont les moyens de cette fin, et s'habitue à la médiation comme à un état normal, ainsi que nous l'avons montré dans une des premières séances de ce cours, et associe son donc le sentiment qu'il éprouvait primitivement à l'occasion de la fin, il l'associe à quelque chose d'autre. De même, il faudrait reprendre tous ces termes, l'oubli, l'habitude, l'association, etc., et montrer comment, à son tour, la valeur de la visée primaire déteint sur les objets secondaires du savoir, les contamine, se propage à eux et va ainsi à des objets intérieurs de plus en plus indirects, lointains, et par un raffinement de la finesse. Raffinement. Voilà encore le raffinement qui est un des privilèges de l'homme civilisé, d'une tête civilisée, et comme l'indique le mot, de la finesse sur de la finesse. L'homme ne se contente pas d'être fin, il raffine sur sa propre finesse. Il trouve qu'elle n'est pas encore assez fine, et il a, comme on coupe un cheveu en 18, dans le sens de la longueur, n'est-ce pas, pour que ce soit plus fin. Voilà donc l'homme manipulant donc ses objets indirects comme l'avare manipule son argent, n'est-ce pas ? En oubliant que l'argent, après tout, ne sert à se procurer des biens, des avantages, des plaisirs, du confort, et il oublie tout cela. Et il prend goût à ce sous-produit secondaire de qui n'est pourtant qu'un symbole et un moyen. Voilà donc cette secondarité que nous allons pouvons étudier d'une manière plus précise dans la mesure où elle concerne directement notre problème, c'est-à-dire l'immédiat avec lequel nous avons perdu le contact. Et cette secondarité, dont j'ai dit qu'elle ressemblait à un tissu conjonctif, qui tapisse toute l'existence, qui remplit tout l'entre-deux de l'intervalle, et par conséquent qui envahit tout cet intervalle. Et dès que l'homme se laisse aller, elle occupe tout, comme les herbes folles. Si les jardiniers, la voirie cessaient de surveiller Paris, eh bien, dans 3 ans, Paris serait envahi par les herbes folles. Serait une grande prairie, n'est-ce pas? Les herbes folles. Eh bien, on dirait volontiers que, ce sera peut-être pas si grand mal, en espèce, mais on va dire, disons que, les herbes folles, c'est comme cette secondarité envahissante et qui occupe tout l'entre-deux. À cet égard, et j'anticipe peut-être un peu sur un chapitre que je n'aurai probablement pas le temps de traiter à fond, c'est pourquoi je regrette moins d'anticiper sur lui, mon 3e chapitre, consacré à l'immédiat de la 2e personne, et il n'y a pas en effet de sentiment qui se prête le mieux à cette secondarisation que le sentiment de l'amour. Il n'y a pas de sentiment de rapport de l'homme, en l'espèce, un rapport avec le donné immédiat qui est la personne aimée, la seconde personne, l'objet de la locution. Il n'y a pas de sentiment qui se prête mieux à ce travail de prolifération, de secondarisation, que ce sentiment le plus humain entre tous. Et qui, par conséquent, est plus davantage exposé à ces dangers. C'est pourquoi on voit périodiquement, et notamment un grand esprit, un psychologue extrêmement subtil, dont je parle souvent ici, Fénelon, qui se met en garde lui-même et met en garde ses correspondants contre le danger qui menace l'amour et qui est de se détourner de l'aimer, qui est l'objet de sa visée, pour se porter sur l'acte d'aimer. C'est pas l'amour qui cesse d'aimer l'aimer, ou participe passé passif, amatus, res amata, pour aimer l'aimer, le fait d'aimer, pour aimer l'amour. L'amour qui, à force d'aimer l'aimer, et trouvant que c'est bien ennuyeux, finalement, d'aimer une personne aimée, finit par s'aimer lui-même, pour changer, à force d'aimer. Où se regarde aimer dans un miroir. Eh bien, ici, nous saisissons, d'une manière plus frappante et menaçante, la déviation toute naturelle dans le sentiment. Et l'objet très pénétrant de Fénelon, et pour lequel, et qui pourrait nous servir indéfiniment pour ce cours, c'est de nous inviter à ne pas perdre, à bien viser, comme on dirait aujourd'hui, à bien viser l'aimer, n'est-ce pas ? Et à ne pas perdre la ligne de mire, si on peut dire, ne pas regarder à droite et à gauche, à ne pas perdre la direction de l'accusatif d'amour, n'est-ce pas ? Qui est la raison d'être et la fin, sans laquelle l'amour n'a pas de sens et n'a pas de raison d'être, à ne pas perdre de vue cette raison d'être et cette fin. Donc, il nous rappelle, en somme, à la rectitude, d'une part, et à la simplicité, de l'autre, et c'est-à-dire à l'innocence. Rectitude plus simplicité égale innocence. La rectitude, c'est-à-dire regarder droit, n'est-ce pas, et non point à droite et à gauche. Et deuxièmement, la simplicité, par opposition à la complication, c'est-à-dire éviter le pli de conscience, n'est-ce pas. Simplex veut dire dans lequel il n'y a pas le repliement de la conscience sur elle-même, comme dans la complication. Dans la complication d'un amour qui finit par s'aimer lui-même, ou dans lequel l'amant s'aime lui-même, ou aime son amour. Ou comme je le disais, se regarde dans un miroir. Eh bien, à cet égard, on peut dire que ce sujet est privilégié, et je m'y serais appesanti davantage, surtout si je n'avais pas dû le traiter plus tard. Nous savons bien que ceux qui aiment parlent beaucoup trop, parlent indéfiniment, c'est-à-dire traitent avant tout le problème de leur amour, n'est-ce pas ? Ils oublient l'amour, qui n'est pas sans l'aimer, et pour parler sur le problème, là, ou comme disent aujourd'hui les gens bien, les gens qui connaissent leurs auteurs, et notamment la philosophie allemande, de la problématique. de l'amour, n'est-ce pas? Ce sont les gens qui ont délaissé l'objet même qui est la raison d'être et en ont fait simplement un prétexte et une occasion. Eh bien, nous disons que la rectitude, d'une part, la simplicité, d'autre part, font l'innocence, et qu'en effet, c'est l'innocence qui manque le plus à l'homme de la conscience, à l'homme ainsi subdivisé. Et c'est l'innocence qu'il faudrait lui rendre, et qu'il a perdu par l'abus d'auto-analyse, qui a rendu l'aimer si lointain, si petit, comme la liquide de Spinoza, dont nous parlions tout à l'heure, à propos de la proposition du Scoli, la proposition 21 du livre 2. La liquide du savoir devenu aussi petit que aussi lointain que la princesse lointaine, cette dame dont j'ai parlé une fois et dont nous reparlons quelques fois d'ailleurs, la dame du troubadour de Geoffroy Rudel, qui est bien content que la princesse soit à Tripoli, qu'elle soit lointaine, n'est-ce pas? Que serait la princesse lointaine du poète, de l'homme qui a une tête et pas de sens, par exemple, que serait cette princesse lointaine sans tout le travail de la complaisance? La complaisance, attention à ce mot dont nous reparlerons également, et qui est un mot avec exposant, qui est du plaisir sur du plaisir, n'est-ce pas? Le plaisir de prendre plaisir, le plaisir qu'éprouve l'amour, l'amant, à se sentir aimé, à se savoir aimé, à savoir qu'il fait les choses que doit faire un homme dans la vie. Un homme à 20 ans doit aimer, à 30 ans aimer les honneurs, à 40 ans, je ne sais pas quoi, ce qu'il lui reste à aimer. Et il y a donc dans cette complaisance un plaisir du plaisir qui de nouveau trahit l'exposant. Donc, que ferait, encore une fois, que serait cet objet de l'amour sans les lettres qu'on lui écrit, sans les mèches de cheveux que l'on conserve, précieusement, sans le culte que l'on rend à son portrait, sans, en somme, toutes les conduites de l'absence, toutes les conduites de la self-conscience, de la conscience de soi, et qui font que la bien-aimée lointaine finit par devenir un prétexte auquel nous ne pensons que de temps en temps. C'est toute la végétation proliférante, comme une forêt tropicale, comme une forêt équatoriale, et qui foisonne autour d'une photographie. Autour d'un nom, d'un ruban, d'une fleur séchée. Eh bien, sans tout cela, cette princesse lointaine, probablement qu'elle ne serait qu'une pauvre femme. Une pauvre femme, sans doute assez médiocre, bien qu'elle soit de Tripoli. Pourvu qu'elle ne s'avise pas de revenir un jour. Si elle revenait, à qui écrirais-je des lettres, d'abord, n'est-ce pas? Il n'y aurait plus de correspondance à faire. Et d'ailleurs, c'est un fait bien connu que les hommes préfèrent de beaucoup à la bien-aimée la photographie de la bien-aimée, n'est-ce pas? Et ils préfèrent de beaucoup les reliques, une écharpe, parce qu'elles sont maniables, comme le mot est maniable en lui-même. Ce sont donc des conduites de secondarité, parce que aussi il reste toujours la ressource, quand on en a assez, de la ranger dans un bahut, un tiroir, ce qu'on ne peut pas faire pour la bien-aimée elle-même, en chair et en os. Ainsi, de nouveau, il nous apparaît que l'œuvre de secondarité, c'est la philosophie, à propos du sentiment notamment, qui est autour et à propos, qui circule autour et à propos, parce qu'en effet, c'est celle qui se prête le mieux au long discours et aux dissertations et en général, et qui nous éloigne de l'amour lui-même, ipsé, c'est-à-dire de l'ipséité de l'amour, et en effet, de l'ipséité de la chose aimée, et qui a été toujours la visée de Platon, car la visée de Platon, ça a été de retrouver toujours ce que nous appelons ici autos, n'est-ce pas? Auto, kalon, auto, agaton, le bien lui-même, le beau lui-même, le vrai lui-même, et enfin, le lui-même de lui-même, celui qui est au-delà de tous les représentants, de tous les vicaires, de tous les remplaçants, de tous les sous-produits. Le modèle des modèles, il n'y a pas plus prototypique que lui, il n'y a pas plus essentiel, il n'y a pas plus vrai, n'est-ce pas? La vérité de la vérité, enfin la vérité, enfin le prototype, enfin l'archétype. Eh bien, c'est de lui que nous avons peur, et c'est lui que nous ne cherchons pas à voir, à se donner immédiat. Et c'est pourquoi nous faisons tant de circuits autour, tant de périphrases. Peut-être que j'aurai l'occasion de dire, mais je ne veux pas le faire aujourd'hui parce que ça aurait peut-être l'air trop forcé, que la préciosité est en grande partie partie l'effort d'une conscience trop civilisée, trop raffinée et trop hypnotisée par l'exposant de conscience pour éviter la chose elle-même. Et par exemple, en lui donnant en ne l'appelant pas par son nom, en l'appelant par un autre nom. Et nous retrouvons donc en cela la paresse d'esprit, en somme, la fuite loin de l'immédiat, le désir de desserrer le contact primaire avec la chose, et qui favorise ainsi la circonlocution précieuse. Comme ceux, par exemple, qui évitent de parler du sujet lui-même, soit qu'il n'ait rien à en dire, soit qu'il n'ose pas, qui, au lieu de parler, annoncent qu'ils parleront de Dieu ou qu'ils parleront de la mort, et en réalité ne font que faire une collection de placitas, d'opinions des autres sur la mort, ou bien font une enquête sur ce que les hommes pensent de la mort, sur ce que les hommes pensent de Dieu. Ça vaut mieux de se retrancher comme ça derrière les enquêtes. Ils font des statistiques. À 20 ans, on en pense ci, à 30 ans, on en pense ça, les dames pensent ci de Dieu et les hommes pensent ça, et les enfants, etc. Mais on vous demande, qu'est-ce que vous pensez vous-même? Est-ce que par hasard, vous ne penseriez rien? C'est peut-être en effet le cas. En tout cas, nous retrouvons bien ici le désir d'éviter, d'ajourner le tête-à-tête, d'ajourner le tête-à-tête avec l'objet lui-même, c'est-à-dire avec la chose terrible et pourtant rajeunissante, la seule qui vaille la peine et qui est l'ipséité de la chose et dont j'ai dit qu'elle avait été la visée constante de Platon. Et en évitant la tierce personne interposée, et cette fois en rejetant les épanabasmoï. L'homme recherche toujours fuit toujours ce contact. Et il y a des moments où je me demande si le goût de la guerre, qui est si prononcé, comme vous le savez, chez les hommes, ne vient pas un peu de cela. Car la guerre est justement un moyen de ne pas s'adresser à l'autre, n'est-ce pas, d'éviter le contact avec l'autre. On lui envoie les grenades à la figure, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'on ne lui parle pas. On le traite comme une troisième personne, comme de la chair à canon, comme du gibier de chasse, comme une abstraction anonyme, une troisième personne impersonnelle. Donc, en ce sens, on peut dire que l'état de guerre, l'état belliqueux, est un état de facilité qui nous évite de parler à quelqu'un, de nous adresser à lui, ce qu'on évite soit en le boudant, soit en lui faisant la guerre. Nous reviendrons la prochaine fois sur la seconde arrivée.